marchepied pour la fortune.
Et alors, le problème, c'est que ce discours, ces éléments qu'on donne nous-mêmes, on critique ces interventions de l'État qui sont au service des intérêts privés, ces éléments-là sont repris à leur compte par un certain nombre de conservateurs qui disent « Vous voyez, on ne peut pas faire confiance à l'État pour assurer le bien public parce que l'État est trop corrompu ». Et d'une certaine manière, aux États-Unis, on avait un auteur que vous connaissez d'ailleurs, qui s'appelle Thomas Frank, qui avait fait tout un livre sur la présidence de Bush, en expliquant que l'un des objectifs de la présidence de Bush, c'était de montrer que l'État était corrompu. À travers les scandales à Enron, à Liberton, etc., il avait convaincu les Américains que le recours habituel des progressistes américains, qui était le recours à la puissance publique, ne pouvait pas fonctionner parce que maintenant la puissance publique était très largement happée par les intérêts privés. Et on a maintenant cette difficulté, qui est une difficulté des progressistes, qui est comment transforme-t-on les choses si l'institution habituelle avec laquelle on transformait les choses, c'est-à-dire l'État souverain et démocratique, est soupçonnée de corruption par un certain nombre de gens et, malheureusement, ce soupçon est pour une large part fondé.
Ouais, oui.
Voilà. On peut difficilement, après avoir dénoncé les ménages, les renvois d'ascenseurs, les gens qui pantouflent dans le privé, ne pas admettre que les gens de droite ont raison de nous dire que parfois l'État est trop corrompu pour assurer le bien commun. D'une certaine manière, l'État a été tellement corrompu ces dernières années que les conservateurs peuvent utiliser ce fait pour s'opposer à toute intervention publique.
Oui, c'est pas seulement les conservateurs, c'est une large partie de l'opinion populaire qui pense comme ça.
Absolument. L'opinion populaire pense comme ça parce qu'elle sait que...
C'est la base du Tea Party, ce qu'on est en train de décrire là.
Oui, mais pas seulement le Tea Party, ça va au-delà. Et ça tient à une difficulté qu'on mesure, c'est que quand il y a un scandale qui concerne une entreprise privée, on se dit, bon, cette entreprise privée est corrompue. On ne remet pas en cause la libre entreprise dans son ensemble. En revanche, quand un scandale éclabousse un agent du bien public, on dit, vous voyez bien, l'État est corrompu. Et il y a toute une médiatisation de ces scandales qui débouche sur la conviction qu'on ne peut plus utiliser, en quelque sorte, cet instrument pour accomplir des objectifs collectifs.
Ce qui est très frappant quand même dans ces élections, c'est le financement. Vous en avez parlé dans le diplôme, vous en avez parlé dans les suppléments de manière de voir. C'est quand même cette fois-ci... avec les super PAC, un financement extraordinaire qui conduit vraiment à considérer que cette démocratie américaine est tout simplement complètement corrompue, que la démocratie est complètement confisquée aux États-Unis par ceux qui donnent l'argent et qui, évidemment, ne donnent pas cet argent sans contrepartie.
D'où la défiance envers l'État dont on parlait tout
à
l'heure.
Oui, oui.
Les gens savent bien que cet État, ce Congrès, ce président sont assez largement tributaires des financements qui leur ont permis de devenir représentants, sénateurs ou présidents des États-Unis. Et ils doutent de l'impartialité, de la neutralité, de l'excellence des décisions qu'ils sont prises, parce qu'ils peuvent très facilement associer un financement et une décision de la puissance publique. Il faut tout de même préciser que depuis 2010, il y a eu un arrêt de la Cour suprême, dont nous avons aussi beaucoup parlé dans le monde diplomatique, qui a complètement déréglementé les financements, qui a fait voler en éclats les règles qui avaient été dictées à la suite du scandale du Watergate, et qui permet maintenant à des milliardaires qui, en fonction de leur lubie, peuvent déterminer le destin d'une élection.
On a une amie tunisienne, là. Je me souviens, dans votre pays, du premier jour où les Tunisiens ont voté, puisqu'on parle de la démocratie. C'était un très grand moment. On a fait des reportages, c'était très émouvant de voir ces Tunisiens, ces Tunisiennes, ces gens de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les conditions, en train de tremper leurs doigts dans l'encre noire ou bleue, et de voter. C'est dire, oh, qu'est-ce que c'est magnifique, quel moment extraordinaire. Est-ce que c'était cette démocratie-là qui vous servait d'exemple? Quel lien on peut faire entre la démocratie qui arrive en Tunisie et la démocratie telle qu'elle se vit aux États-Unis?
Je pense que, comme beaucoup de Tunisiens, on se fait pas beaucoup d'illusions sur les limites de la démocratie représentative, mais en même temps, c'est la seule manière qu'a inventé l'humanité jusqu'à maintenant pour faire entendre sa voix. Donc je pense que moi, je fais partie des Tunisiens et Tunisiens qui étaient très émus d'aller voter, parce que pour la première fois de l'histoire tunisienne, on était capable de voter, sauf que c'était un moment et que le processus, la mise en place d'institutions démocratiques et d'une vraie démocratie,